Il faut vous enivrer sans trêve. Et de quoi? De vin? De poésie? À votre guise.
J'aime le vin par excellence, parce que le vin est un aliment très nourrissant.
Bienvenue sur Ni Bu Ni Connu, une émission Divergence FM. Je pense que ça va parler de vin.
Et surtout du très très bon vin.
Il ne s'agira évidemment pas ici d'inciter à, mais plutôt d'aborder le vin comme une culture, un univers, un monde.
L'objectif, c'est de parler du monde viticole, qu'on rende hommage au vignoble du Languedoc, à mettre en avant les difficultés du monde agricole.
Et on n'a pas vu encore un petit coup de Bourgogne.
On va revenir à ce principe de naturalité du vin.
Il nous faut un taboulé en bois pour lui donner un petit goût boisé au vin.
C'est un plaisir très intellectuel que parce que genre, t'as envie de rester, de t'asseoir et de penser au monde en buvant ton vin.
J'aime beaucoup ça.
Bienvenue dans Ni Bu Ni Connu, l'émission 100% vin de Divergence FM. Aujourd'hui, direction les Grès de Montpellier, une appellation jeune, pleine d'élan, qui trace sa route autour de Montpellier, entre l'Hérault et le Vidourle, les deux fleuves côtiers du département. Ici, les Grès, ce sont des petits cailloux pauvres. Ils racontent un terroir, mais aussi une vraie vision du vin, avec une immense majorité de domaines engagés dans des démarches bio et agro-environnementales. Pour en parler, on est allé à la rencontre d'Olivier Durand, du domaine de la Tribale, un vigneron bio et président de l'appellation. Allez, on part découvrir tout ça ensemble.
T'as envie de rester, de t'asseoir et de penser au monde en buvant ton vin ?
J'aime beaucoup ça.
Bonjour Olivier.
Bonjour à tous les deux.
Merci en tout cas de nous recevoir dans votre fabuleux domaine de la Tribale, en pleine garrigue, c'est magnifique.
Voilà, en pleine garrigue, c'est une glycine abondante.
Et une neige de glycine d'ailleurs.
Voilà, il a beaucoup plu cette année, donc elle se porte très très bien. Une floraison magnifique et on espère qu'il y aura la même floraison dans la vigne. Parce que pour l'instant, nous avons échappé au gel, à la grêle, parce qu'il a un peu grêlé, mais les bourgeons n'étaient pas encore sortis. Donc pour l'instant, pas d'inquiétude sur le devenir de ce millésime 2026.
Pas tout de suite en tout cas. Faut pas trop s'inquiéter effectivement. Donc avant de parler des Grès de Montpellier, l'appellation phare Montpellier-Rennes, j'aimerais qu'on parle d'abord de vous. Donc Olivier, qui êtes-vous et c'est quoi le domaine de la Tribale ?
Alors, Olivier, vous êtes ici sur un domaine familial, enfin, du moins sur des terres familiales qui appartiennent, qui sont dans la famille depuis plus de 3 siècles maintenant. Voilà. Mais le domaine sur lequel vous êtes, ça a été une construction, une création avec mon épouse. Voilà, première pierre en 1989. Voilà, avec la cave et puis ensuite la maison où vous êtes, qui n'a pas bougé depuis d'ailleurs. Et puis ensuite un premier hangar, puis un deuxième, puis un caveau de dégustation, puis encore autre chose. Et puis il y a encore beaucoup de projets puisque mes deux filles reviennent sur la propriété. Donc il y a une succession et j'en suis très très heureux. Marie et Justine, voilà. Marie l'aînée et Justine la seconde, chacune dans un rôle bien, bien précis. Marie plutôt sur la production et le no-tourisme, et Justine sur quelque chose qui est important aujourd'hui sur une propriété, on ne le souligne pas assez, sur un domaine, c'est toute la partie administrative, finance, etc., qui prend un temps certain. Quand on s'est installé avec mon épouse, l'administratif c'était une demi-journée par semaine. Aujourd'hui c'est un temps plein, un quart.
Ouais, c'est... Voilà, c'est avec juste toutes les normes, les règles, les douanes.
Ce matin, il y avait le ministre Jean-Noël Barrot, et lui-même reconnaissait qu'il y a trop de normes en France, qu'il y a trop de contrôles. Voilà, c'est les aléas aujourd'hui.
C'est l'exception française, comme on dit.
C'est ça, l'exception française. Voilà.
Bon, parlons de votre terroir. Alors, ici, on a une carte d'identité de la Tribale. Alors, on est où? Combien d'hectares? Qu'est-ce que vous faites?
La Tribale, un domaine, donc, historiquement, on a une grande chance. Parce que d'abord, on est en culture bio depuis 1974. On est des précurseurs.
Des plus anciens de France,
oui. Oui, on fait partie de la cinquantaine de domaines qui ont été les précurseurs de la bio en France. Voilà, avec une chance en plus pour nous, puisque on est au milieu d'un domaine de garrigue de 80 hectares, où pas de voisins, et où j'ai privilégié toujours cette recherche entre la bio et la biodynamie de l'écosystème. Chaque vigne est une petite partie de la propriété au mieux de la garrigue. Ce qui fait que je peux traiter différemment chaque cépage, puisqu'on sait pertinemment que des cépages sont plus sensibles à certaines maladies que d'autres. Donc chaque vigne est considérée. La propriété pour moi est un écosystème à part entière, où on a remis depuis des moutons, des plantes à parfum, on a diversifié, mais on revient en fait à ce que mon grand-père faisait. Et chaque vigne est considérée comme un écosystème. C'est les bases premières de la biodynamie que je pratique sans être certifié aujourd'hui.
Ouais, la polyculture, quoi. C'est le...
Alors, polyculture, plus on utilise aujourd'hui en plus les. On est en recherche là-dessus, un peu plus pointu, d'utiliser les eaux florales, de nos plantes à parfum, donc romarin, thym et immortel, pour les utiliser dans les traitements contre les maladies de la vigne. On est en train de faire des essais et. Parce que ces plantes ont des pouvoirs très très forts. C'est assez ma fille, incroyable, Marie, ouais. qui vraiment chapeaute ça, puisqu'elle est aussi dans une première vie, elle continue toujours, elle est toujours chercheuse, voilà, bac plus 8 sur la recherche, donc voilà.
Voilà. Et donc ici sur votre magnifique finalement îlot, loin de la monoculture de vigne à perte de vue, vous êtes à cheval entre bah, évidemment le terroir du Pic Saint-Loup sur la partie nord et sur la partie, sur l'autre partie sud et est en grès de Montpellier. Parlez-nous des grès de Montpellier. C'est quoi les grès de Montpellier?
Alors les grès de Montpellier, alors c'est vrai que moi je peux faire la différence encore plus facilement que beaucoup d'autres.
Ah bah oui, vous avez le.
Puisque j'ai les deux appellations et c'est vraiment. Il y a une caractéristique principale sur les grès de Montpellier. Les grès de Montpellier, ce qui fait la différence avec les autres appellations, c'est en fait c'est le climat. Ce ne sont pas les sols. On a différents sols, des magnifiques galets roulés comme la même formation que les Côtes du Rhône sur la Méjanelle, sur les anciens en fait terroirs historiques Saint-Dréséry, la Méjanelle, Saint-Georges d'Orque.
Qui viennent du Rhône ou de la Durance,
c'est voilà, ça c'est exactement, c'est la même formation que les Côtes du Rhône. Vous avez d'ailleurs toutes les folies montpelliéraines, qui sont une des caractéristiques aussi des grès de Montpellier, qui ont chacune leur propre source, leur propre puits. Elles ne sont pas reliées pour la majorité au réseau parce qu'elles ont un bras du Rhône qui passe au-dessous et c'est vraiment pratiquement inépuisable. Le château de Langaron a eu quelques soucis l'année dernière, il y a 2 ans, mais sinon ils n'ont pas l'eau de la ville encore, ils sont vraiment sur un bras du Rhône dessous qui prouve encore plus cette même formation géologique. Après, on a aussi quelques marnes, on a des calcaires lacustres, on a différents sols.
Grès, ça veut dire caillou, c'est ça
Alors, grès de Montpellier, avec un accent aigu, important pour les journalistes, quand on l'écrit, avec un accent aigu, c'est le terme languedocien, qui en fait, la traduction, c'est des terres pauvres et caillouteuses, à mi-pente souvent de collines ou en sommet de collines, où les anciens avaient remarqué qu'il n'y avait que deux choses qui pouvaient pousser, la vigne et l'olivier. Okay. Voilà, même les pois chiches, non, ça n'allait pas. Voilà, donc depuis longtemps, ce sont des terres qui sont dévouées à la vigne, avec quand même des sols profonds qui permettent à la vigne de bien s'enraciner. Et surtout, donc, c'est l'élément primordial et principal, avec l'influence marine. C'est-à-dire que là, vous voyez devant vous, vous avez une ligne de collines. Voilà.
Et derrière, on voit la mer.
Vous êtes en grès de Montpellier. Vous êtes en haut, on voit la mer. Et donc, vous avez l'influence marine, vous avez la brise marine qui, tous les jours, va rentrer en été pendant la maturation des raisins. Et elle va rafraîchir l'atmosphère.
Ça se sent vraiment, ça?
Ah, ça se sent vraiment, puisqu'il y a 3-4 degrés de moins ici que si vous allez derrière Pic Saint-Loup, Terrasse du Larzac ou autre. Le mieux, c'est quand vous prenez votre voiture, bon, l'essence coûte cher actuellement, je le sais, mais vous partez de Montpellier à 17h du soir, en 14 juillet, et vous allez vers Orange. Vous partez à 17h ici, vous avez 30 degrés, vous arrivez à Orange à 18h, une heure après, vous avez 32 ou 33 degrés. Voilà, pour vous montrer
la différence. Ouais.
Et inversement, la nuit, l'air froid des Cévennes descend, est bloqué par cet air un peu plus chaud, et donc il va faire plus doux dans les grès de Montpellier que dans les terroirs derrière. C'est pas rien, puisqu'on a mesuré les différences, les amplitudes thermiques journalières, c'est entre 11 à 14 degrés tous les jours. Donc à la fin, ça fait une somme de température qui est énorme, d'où une maturation plus douce et plus homogène des raisins. Et cette caractéristique, on la retrouve dans les tanins fins et soyeux, qui sont vraiment des marqueurs des grès de Montpellier. Et
Mathieu qui est ambassadeur des grès de Montpellier.
Voilà, Mathieu qui est ambassadeur des grès de Montpellier, qui aujourd'hui tourne pour l'appellation pour faire découvrir C'est joli vin.
J'ai une question d'ailleurs à poser à Mathieu. Quel type de vin on fait ici? J'avoue, moi je fais un peu l'innocent. On fait des rouges, des rosés, des blancs. Et puis ici, qu'il y a une couleur, comment ça se passe?
Alors pour les grès de Montpellier, c'est du rouge exclusivement. Et effectivement, on a des vins très gourmands, fruités, avec des tanins harmonieux. Donc vraiment, personne ne grimace en les dégustant, puisqu'on ne sent quasiment pas ces tanins soyeux, veloutés, liés au climat, à une belle maturité des raisins et la maturité un peu végétale, harmonieuse, liée à toutes ces influences qu'a cité Olivier.
Et Olivier...
Je rajouterai par contre que ces tanins, ils sont fins et soyeux, mais ils sont présents.
C'est-à-dire qu'on... On va déguster après, au moins une bouteille. Hein.
On a la chance, si vous voulez, d'avoir des vins qui peuvent se boire dans la jeunesse. On a quand même mis dans le cahier des charges du grain de Montpellier, les vins ne peuvent être vendus qu'un an, il y a au moins un an de maturation.
À la fois en cuve, en fût ou en bouteille.
En cuve,
quoi.
En fût ou en bouteille, avec une mise en bouteille qui ne peut pas être avant le 1er juin. Par contre, on a des vins qui vieillissent très bien. Et moi, actuellement, de chez moi, bien, je vous ferai sûrement déguster. Actuellement, ça déguste très bien de chez moi, les 2015.
Ah ouais.
Voilà. Et vous voyez, 10 ans, voilà, on a des vins qui sont à l'apogée, qui ont très bien vieilli et qui, même à l'ouverture, tiennent très bien encore le...
Bon, on rappelle que l'alcool est à boire avec modération. Olivier, donc vous parlez de terroir, évidemment, un peu plus proche de la mer, influence de la mer. Ça va de où à où, les grès de Montpellier?
Alors, les grès de Montpellier, par rapport aux anciens... Je parle de, comme un ancien. Par rapport aux anciens coteaux du Languedoc, c'est la plus grande ex-dénomination, plus grande appellation.
Oui, parce qu'avant, c'était Languedoc, grès de Montpellier. Maintenant, c'est grès de Montpellier tout court.
Voilà, ça, c'est encore les subtilités de... qui est difficile de faire comprendre à un consommateur, mais bon, voilà. Ça va, écoutez, c'est pas compliqué. C'est bordé par deux fleuves. Le Vidourle à l'est et l'Hérault à l'ouest. Et aujourd'hui, c'est 45 communes. Alors, c'est immense. En fait, c'est pratiquement tout les 20 km face au golfe du Lion, 30 km de part et d'autre de Montpellier qui subissent cette influence marine. Voilà. Mais par contre, avec un parcellaire où on est allé rechercher quand même, j'ai envie de dire, la substantifique moelle. On a vraiment un parcellaire en dentelle. On est allé chercher les meilleures parcelles dans l'ancienne appellation Languedoc.
Et comment vous avez fait pour aller chercher ces meilleures parcelles? Qui les a, on va dire, dénichées? Qui les a certifiées?
Oh là.
Tout en restant politique.
Très positif. Là-dessus, vous avez des commissions qui tournent, et donc une commission d'experts. Donc on a tourné, notamment avec Jacques Lafond de l'INAO, plus deux autres experts. Trois même, il y en a un qui est décédé au milieu, le pauvre. Et c'était le plus jeune en plus. Donc une commission d'experts, donc avec des critères. Des critères qui étaient très simples, donc je vous ai parlé, c'est des mi-pentes, caillouteux, pas de concavité. Je
sais, d'accord,
j'ai une parcelle moi qui a été coupée en deux parce qu'il y a une parcelle qui était vraiment à mi-pente, puis une autre parcelle qui faisait une légère concavité qui remontait. Eh bien, tout président que je sois, eh bien, je me suis pillé aux fourches codines de l'INAO. Donc j'ai une parcelle qui est moitié Languedoc, moitié grès de Montpellier. Voilà. Et voilà, donc il y avait des critères bien précis, voilà, et qui ont été donc déterminés par des experts. Alors, certaines fois, c'était très facile, d'autres fois, c'était un effet un peu plus complexe à tracer des lignes. C'est que quand on trace une ligne, d'un côté, on fait un content, de l'autre côté, un mécontent.
Ah oui,
donc, de temps en temps, il y a eu...
Souvent dans l'histoire de la géopolitique.
Voilà, il y en a toujours été précurseur pour ça, parce que c'était la première délimitation parcellaire. Donc, on a été précurseur, les grès de Montpellier, on a été précurseur pour beaucoup de choses, je trouve, dans tout ce qui est administratif vigneron.
Particularité de l'appellation grès de Montpellier, c'est... sur la bouteille, elle est marquée en fait grès de Montpellier. Et rares sont les appellations dans le Languedoc qui ont sur la bouteille finalement le sceau du nom de l'appellation.
Alors ça a été une volonté dès le départ, une volonté donc d'avoir une bouteille marquée, reconnaissable, qui va évoluer, parce qu'aujourd'hui, on est en refonte un petit peu d'identité, c'était le moment. Donc cette bouteille, maintenant, elle a une quinzaine d'années. Voilà. C'est vrai que c'était important pour nous qu'on ait une bouteille reconnaissable. Aujourd'hui, avec le temps et avec l'usage, donc on a simplifié. Donc aujourd'hui, le blason sera différent, mais beaucoup plus simple et surtout beaucoup. C'est un blason que j'aime beaucoup. Pourtant, j'étais à l'origine aussi de l'ancien marquage, hein, mais il y avait la croix du Languedoc, plus marqué Grès de Montpellier, c'était un peu long. Là, on voulait en même temps alléger la bouteille, puisque ça va aussi dans l'air du temps, la charge carbone, etc. etc. Et on voulait quelque chose qui accroche un petit peu plus, parce qu'on s'était rendu compte que Grès de Montpellier, quand la bouteille est couchée, on ne le voit pas trop, il faut la tourner légèrement pour tout lire. Là, on a travaillé, ça fait 2 ans que la commission identité a travaillé. Donc
c'est obligatoire d'avoir cette bouteille si on veut faire du Grès de Montpellier ou non ?
Là encore, nous sommes en France et donc nous n'avons pas le droit d'imposer la bouteille.
Okay.
On n'a pas le droit de l'imposer nulle part. C'est un petit peu dommage, mais bon, donc il y en a. Mais ce qui est très amusant, c'est qu'avec l'ancienne identité, certains ne voulaient pas la prendre. Je vous prends un exemple tout bête. Hein. On a un opérateur qui travaille beaucoup en Asie. Et la croix du Languedoc sur la bouteille, ça empêchait la bouteille de partir en Asie parce que c'était considéré okay. comme un signe religieux. Voilà, c'était aussi une des raisons pour laquelle il fallait que l'on bouge ses codes. Donc voilà, donc là, cet opérateur va faire une prochaine mise et 10 000 cols, paf, voilà, avec la nouvelle entité. Donc c'est un G stylisé, travaillé, et qui, c'est marrant parce qu'il est interrogateur. Alors, on travaille aussi sur l'étiquetage. Je viens de proposer à l'INO dans la réflexion, la simplification du cahier des charges, de modifier un petit peu l'étiquetage pour que l'appellation soit un peu plus lisible sur l'étiquette, voilà, que ce soit sur l'étiquette commerciale, voilà, et avec que les caractères d'appellation soient aussi importants, la taille soit aussi importante que le nom du domaine ou le nom de la marque.
Ok.
Vous regardez d'autres appellations prestigieuses,
Château-Neuf-du-Pape,
Baccarat, etc. Il y a un morceau, vous voyez en gros l'appellation, le nom du domaine, il n'existe pas. Nous, c'est vrai que chacun a un petit peu trop tendance à faire, enfin pas trop tendance, on a eu l'habitude, c'était comme ça, de faire nom du domaine en gros. Là, voilà, bien marqué le nom de Montpellier sur l'étiquette, et ce G au-dessus qui est très stylisé, donc avec des... Le G est en petite... un petit fragment, voilà, qui représente cette diversité, et ces parcelles morcelées, ces parcelles...
Ouais, à droite, à gauche de Montpellier.
Voilà, à droite, à gauche, et puis des petites parcelles, des grandes parcelles, voilà, et avec un G avec une barre horizontale, qui n'est pas une barre horizontale, ça a une forme de vague pour rappeler justement l'influence maritime.
Voilà.
Et
sûr.
On reprend cette espèce de vague, cette espèce d'accent, on le reprend sur le mot Grès de Montpellier en haut, le E accent aigu, on le fait, on va l'écrire avec la même vague. Voilà, donc c'est vraiment un gros travail d'identité qui nous a demandé du temps.
Et on verra quand ces nouvelles bouteilles avec ce nouveau seau ?
Théoriquement, si tout va bien, fin juin, ça devrait sortir.
Okay. Actuellement, c'est avec le nouveau millésime.
Le plan verrier, le but c'était ça, c'est de sortir la nouvelle identité et la nouvelle bouteille avec le nouveau millésime. Ça allait de pair, c'était la nouveauté qui arrivait. Voilà.
Ok. Mathieu, tu as quelque chose à ajouter ?
Oui, tout cela accompagné de la communication « un grès, s'il vous plaît ».
Voilà.
Reparlons un peu de vin. On n'a pas parlé, on a oublié de parler des cépages. Alors, je ne sais pas si Mathieu ou Olivier, vous voulez aborder ce sujet. Quels sont les cépages autorisés dans une bouteille de Grès de Montpellier ?
Alors, petit changement encore là, si vous voulez. Enfin, petit changement, non. Il n'y a pas de changement, mais il y a une petite évolution. Voilà, on est sur sur 5 cépages qui sont les mêmes en Languedoc. Donc, Syrah, Grenache, Mourvèdre, Carignan et Cinsault. Et un petit peu de Morastel, parce que le Morastel est un cépage qui nous amène, qui a été, alors c'est un très vieux cépage de l'appellation, peu planté, mais aujourd'hui on se rend compte avec le réchauffement climatique qui nous amène une fraîcheur un peu supérieure aux autres cépages. Et petite modification là qu'on va demander à l'INAO, quand on a fait quand on a écrit le cahier des charges, on avait classé 3 cépages prioritaire, Syrah, Grenache, Mourvèdre et Carignan-Cinsault en secondaire avec maximum 40% dans
la vinif,
dans l'encépagement. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte qu'il faut simplifier. On le demande à nos administrations, donc on le fait nous-mêmes dans le cahier des charges. Donc on a mis tous les cépages. L'encépagement peut être chaque vigneron peut planter ce qu'il veut. Par contre, dans l'assemblage, Les trois cépages anciennement majoritaires, donc Syrah, Grenache, Mourvèdre, sont limités à 80%. Et Carignan et Saint-Saulx, on les a montés à 50% dans l'assemblage.
D'accord.
Et le Morastel est limité à 20%.
D'accord.
Voilà. Mais voilà, donc aujourd'hui, c'était uniquement parce qu'on se rend... Alors, voilà, c'est tout un travail administratif à l'époque. Il fallait que... Enfin bon, on va passer sur les détails qui intéressent peu le consommateur. Mais aujourd'hui, ce qu'on se rend compte surtout, c'est qu'avec ce changement climatique... J'aime pas le terme de réchauffement. C'est ce
changement
climatique.
Ouais.
Parce qu'en fait, il fait moins chaud qu'avant en été, sauf les canicules, et il fait surtout moins froid en hiver, mais tout est lissé. On s'est rendu compte que le Carignan et Saint-Saulx étaient des cépages qui résistaient vraiment très bien à ce changement climatique et amenaient un petit peu plus que ce qu'ils amenaient avant.
Ok. Voilà. Mathieu ?
Du coup, traduction pour tous ces cépages, c'est que c'est une appellation beaucoup plus libre sur l'assemblage, l'encépagement, et que chaque vigneron, s'il a un petit peu son cépage préféré, peut nous faire une très belle cuvée avec un peu plus de grenache, pas forcément énormément de syrah comme dans d'autres appellations.
T'as un exemple de domaine ou de cuvée en tête ?
Ah oui, alors on a Château L'Argentier, par exemple, qui fait un très beau grenache noir. En plus, il aime ce style de vin. Et après, qu'est-ce qu'on a ? On a quelques cuvées avec beaucoup de Mourvèdre, par exemple. Beaucoup de gens, de consommateurs aiment le Mourvèdre. Donc on peut trouver aussi sa satisfaction. On n'est pas imposé avec ces limites-là. Donc beaucoup de diversité.
Ouais. Et du coup, domaine de la Tribale, je crois qu'il y a Langaran, Flaugergue. Est-ce que vous avez, Mathieu, Olivier, d'autres domaines qui font des grès de Montpellier ? Une petite dizaine pour le consommateur ?
Une dizaine ? Alors, vous avez, on va faire de gauche à droite, on va dire. Enfin,
D'est en ouest.
on coupe gauche à droite. D'est en ouest. On aura Roquemal, La Marfée, Colibri, Langaran. On aura domaine de Somarez. Après, on aura Exindre, sur
Villeneuve-lès-Maguelone, vraiment le plus près de la mer.
Voilà, là, vous avez la mer et un petit peu de sable. Bien évidemment, on aura du coup la Tribale, on aura Coste-Monnier, dès qu'on va sur des à cheval avec les Saint-Christol aussi, des GC. Une bonne paire. Il y a l'Amandé, Homelas, pour tous ceux qui sont sur Homelas. Voilà. Il y en a une bonne soixantaine, hein, presque.
Oui, on a une soixantaine de vignerons, sans oublier les caves coopératives. Hein, parce que vous avez la cave d'Assas, la cave de Saint-Georges-d'Orque, voilà, qui aujourd'hui
ouais, bien sûr.
Travaille bien. Vous avez aussi on a aussi des négociants producteurs,
oui.
Puisque nous avons la maison Jean-Jean, nous avons Paul Mas qui déclare des grès de Montpellier. Voilà, donc on a une diversité aussi dans les domaines, dans les vignerons, dans les producteurs. Ça va des petits producteurs comme moi, puisque moi je suis un très petit producteur.
Oui, il y a de tout. Vous avez combien d'hectares, Olivier, ici à la Tribale ?
Moi j'ai 13 hectares de vignes. Mais vu que je suis à cheval sur deux terroirs, en fait j'ai 3 hectares et demi en grès de Montpellier, 3 hectares et demi en Pic Saint-Loup, 1 hectare et demi, il me reste 1 hectare et demi que Languedoc, et puis en plus historiquement j'ai encore un petit peu d'IGP. Voilà, donc ce qui me fait dans la cave une traçabilité.
Ne parlons pas ça aujourd'hui. Bon, j'ai deux dernières questions à vous poser. La première, c'est quoi les projets de l'appellation, où vous voulez aller ? Je sais que, par exemple, le Pic Saint-Loup est en train de délimiter des plus petits terroirs, des espèces de lieux-dits. Les terrasses, ça va être le blanc qui arrive dans l'appellation. Voilà, c'est quoi les projets de l'AOC Grès de Montpellier pour les années à venir ?
Alors, nous, le projet, les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans l'appellation Grès de Montpellier aussi, et se penchent sur le blanc. Voilà, donc se penchent sur le blanc. On a travaillé avec...
Pas mal, ça, ouais.
Avec Supagro. Donc, on a eu l'année dernière trois étudiants et étudiantes qui ont travaillé déjà sur le référencement de toutes les parcelles de blanc sur l'appellation Grès de Montpellier. Là, on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire aujourd'hui essayer de rechercher une typicité. Là, ça va passer plus par le travail de dégustation. Voilà, donc ça c'est aujourd'hui le gros projet, il est là, plus je vous dis cette nouvelle identité là qui est aujourd'hui le fer de lance. Pourquoi cette année elle est importante pour également Montpellier, parce qu'en effet le premier millésime 2024 est en train de sortir. Voilà, donc tout le monde a hâte de sortir ses premières bouteilles, même s'il y en a qui font de l'élevage long, et j'en fais un petit peu partie. Mais on a tous envie de sortir quand même.
Ouais, une cuvée en blanc.
Avec la nouvelle, la nouvelle bouteille. Voilà, donc ça, ce sera un projet. Aujourd'hui, je crois que les Grains de Montpellier sont focalisés sur ça. Le travail du blanc, on le sait, c'est un travail de longue haleine.
Oui, bien sûr.
On le voit avec Terrasse du Larzac, on le voit avec le Pixel Loup. C'est compliqué. Même si aujourd'hui, on est à la simplification. Le travail de définir une... On a mis 20 ans quand même pour les Grains de Montpellier pour faire l'appellation. Voilà, on a mis 20 ans. Faire le blanc, j'espère que ça ira plus vite. Mais voilà, mais il faut quand même voir quelle est l'identité du vin blanc.
Et bien sûr.
Ouais. Qu'elle y est, il faut juste
l'approuver,
l'éprouver et...
Et la goûter. Et
la goûter aussi, mais voilà, et que tout le monde l'adoube. Voilà, cherche le mot.
Merci beaucoup, Olivier. Je vais poser la dernière question à Mathieu. Donc, on parle souvent d'appellation régionale, sous-régionale, d'appellation de grande envergure, des appellations locales, communales. Dans la hiérarchisation de la pyramide des appellations du Languedoc, les Grès de Montpellier se situent où ?
On est une appellation sous-régionale, si je ne me trompe pas.
C'est ça.
Le petit piège là. Hein.
Donc nous sommes au-dessus de l'AOP Languedoc. Et après, au-dessus, il y aura des communales et peut-être des crues également. Mais ce qu'il faut se souvenir, c'est juste que c'est un goût de lieu. Et ce lieu, c'est aussi le terroir des vignerons incroyables de toute l'appellation. Une grande famille de vignerons, du terroir, un lieu où il faut venir les voir et goûter les vins, c'est ça qui compte.
Et bah merci beaucoup, place à la dégustation avant de vous laisser. Et on rappelle que l'alcool est à boire avec modération. A tout de suite.
T'as envie de rester, de t'asseoir et de penser au monde en buvant ton vin ?
J'aime beaucoup ça.
Donc là, on va goûter un Languedoc Grès de Montpellier 2015. Donc effectivement, ça a un peu plus de 10 ans. Donc racontez-nous... Qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille là-dedans? Alors, c'est les cépages.
Alors, cuvée La Capitelle, donc 2015, et une dominante de Grenache. Hein. On est en général, nous sommes sur. En 2015 exactement, je ne sais plus si c'est 55 ou 60, hein, mais dominante de Grenache. Voilà. Vous allez voir, ce sont des vins qui vieillissent très bien. Alors, que de l'élevage cuve. Je n'étais pas un fanat de Monsieur Parker, je fais un tout petit peu de bois quand ça le mérite, mais voilà. Là, et vous allez voir justement cette typicité qui est terrible. On commence à avoir quelques petits arômes de vieillissement, bien évidemment,
mais on reste
quelque chose de beau, de fruits mûrs, un petit peu confituré. C'est avec cette finesse, cette élégance. Vous voyez,
c'est très bon, ouais.
La couleur, on commence à. Je l'ai un petit peu secoué, elle était couchée, donc petit léger trou parce qu'il va y avoir un petit dépôt au fond, mais
ouais,
bon, ça vient de 10 ans. Voilà, mais. Voilà, et ce sont des vins ça, qui actuellement se sortent très bien. Justement, je lui ai été demandé l'autre jour, je l'avais fait déguster à un caviste, et il voulait m'en prendre, mais j'en ai plus, c'est uniquement pour la. Voilà, c'est pour faire déguster des jours comme ça, entre nous.
C'est pour montrer que ça vieillit bien aussi.
Voilà,
quoi. C'est...
Voilà, voilà. Et actuellement, j'ai un 2013 qui tient très très bien la route. Voilà, mais bon, évidemment, quand on l'ouvre, il faut le boire plus rapidement. Mais alors après, on est très dépendant, justement, quand je vous parle du climat. Les années qui ont été les pires pour nous, enfin qui sont les pires pour nous, ce sont les années où il y a énormément de mistral lors de la maturité, puisque le mistral c'est comme un sèche-cheveux et la vigne pour se protéger ferme l'estomac et ne mûrit plus ses raisins. Donc on a des tanins qui sont souvent un peu plus secs, un peu plus durs, les années mistral. Et moi, pour moi, les trois années typiques pour ça, alors heureusement ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu, mais c'était 2006, 2008 et 2010. Et j'en ai encore, et c'est amusant de voir que ces vins-là, ben, malgré le vieillissement, les tanins, ils restent toujours durs, ils sont aussi moins, enfin, beaucoup moins suaves que ceux-là.
Eh bien écoutez, en tout cas, ce vin est excellent. On espère que, chers auditrices et chers auditeurs, vous arrivez à ressentir un peu ce qu'on ressent au nez et en bouche. En tout cas, Olivier, Mathieu, merci beaucoup pour cette émission. On espère se revoir très prochainement. Dernière petite information, la balade des grès de Montpellier.
Ah,
alors c'est quand, jour, c'est comment, racontez-nous.
Ah, c'est un jour mémorable, c'est le 10 mai. Mémorable parce que c'est mon anniversaire. Donc, Ah, il y a Mathieu aussi en plus. Alors voilà, donc on fête
deux
fois.
Ah ouais, Mathieu, toi
voilà.
aussi.
40 ans.
Oula. Oula. Donc oui,
la jeunesse encore.
Racontez-nous un peu le parcours, faites-nous
alors,
saliver.
Alors cette année, pour la première fois, on sort un petit peu de la ville. On part du côté de Saint-Georges-d'Orc.
Oh.
Voilà, le départ sera donné sur le parking de la cave coopérative de Saint-Georges. Et ensuite, on va passer sur trois jolis lieux, le château de Fourques, le château de Langaran, le domaine de Biard. Et ensuite, on rentre un petit peu en ville. On va faire il va y avoir l'étape du fromage qui va être sur un lieu un petit peu inédit puisque c'est sur le parking du tram à l'arrêt au terminus du tram Grès de Montpellier puisque
magnifique la nouvelle
Monsieur de la
station
Fosse, voilà, ouais. Monsieur de la Fosse a eu l'excellente idée de vouloir donner le nom Grès de Montpellier à ce terminus et on la remercie. Voilà, et ensuite on finit dans le parc de Montpellier, j'ai un trou, j'oublie le nom. Voilà, enfin, donc une balade donc un petit peu à l'extérieur, un petit peu dans les vignes. Et ensuite, on rentre avec un petit parcours en tram, bien évidemment. Voilà, et retour. Voilà. Mais une très, très jolie balade.
Ça donne envie, oui.
Voilà, différente. Et toujours, et ça, j'insiste beaucoup, et c'est vraiment l'ADN de la balade des Grès de Montpellier, c'est ce mélange entre la vigne, le vin, la gastronomie, mais aussi la culture, l'histoire de la ville et l'art. Voilà, donc on essaye de mêler tout ça. Ce n'est pas qu'une balade au milieu des vignes où on déguste les vins, il y a autre chose derrière. Et pour montrer l'importance qu'a eu la vigne dans la ville de Montpellier et ses environs.
Eh ben, on vous souhaite le beau temps, on vous remercie en tout cas, et à très bientôt. Au revoir.
Au revoir, merci.
Il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin? De poésie à votre guise.
J'aime le vin par excellence parce que le vin est un aliment très nourrissant.
Bienvenue sur Ni Bu Ni Connu, une émission Divergence FM. Je pense que ça va parler de vin.
Et surtout du très très bon vin.
Il ne s'agira évidemment pas ici d'inciter à, mais plutôt d'aborder le vin comme une culture, un univers, un monde.
L'objectif c'est de parler du monde viticole, qu'on rende hommage au vignoble du Languedoc, mettre en avant les difficultés du monde agricole.
Et on n'a pas vu encore un petit coup de Bourgogne.
On va revenir à ce principe de naturalité du vin.
Il faut un tabouret en bois pour lui donner un petit goût boisé au vin.
C'est un plaisir très intellectuel parce que t'as envie de rester, de t'asseoir et de penser au monde en buvant ton vin.
J'aime beaucoup ça. Hein.